au rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Une émission qui s'inscrit dans la continuité du travail éditorial de la revue La Pensée de Midi. Bonjour, bienvenue dans cette émission du rendez-vous de midi du mois de mai 2010 sur les ondes de Radio Grenouille. Alors au sommaire de cette émission aujourd'hui, un très beau programme puisque nous aurons dans un premier temps Béatrice Monticelli, spécialiste de la musique italienne qui, depuis la Sardaigne, jointe par téléphone, nous introduira dans le monde du jazz en Sardaigne. Deuxième partie de cette émission, littérature, Renaud Ego, écrivain, essayiste, critique littéraire et photographe, qui a coordonné avec Thierry Fabre le dernier numéro de La Pensée de Midi à l'occasion des 10 ans de la revue, nous lira quelques extraits en exclusivité de ce prochain numéro qui sortira le 20 mai en librairie. Enfin, troisième temps de cette émission pour notre dossier, nous aurons un entretien avec Edmond Charlot, le grand libraire et éditeur qui a le premier édité Albert Camus. Mais tout de suite, commençons par la musique avec Paolo Frezu et le jazz en Sardaigne.
Par Paolo Frezu et le quartetto Alborada, qui est un quartetto d'arco, et c'est un morceau qui est la transcription du Miserere, habituellement exécuté par le Concordo de Castelsardo. Donc il s'agit d'une polyphonie sacrée que Paolo Frezu a réinterprète dans une version très très personnelle. Donc par rapport à ce morceau, disons que ce morceau introduit bien l'attachement que a ce musicien à sa propre terre et à son territoire et à sa propre culture d'origine. Donc je crois que la spécificité du jazz en Sardaigne, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est des musiciens qui, à travers leur talent, font une jonction entre la Sardaigne et le jazz contemporain. J'ai pas vérifié exactement, mais ce qu'on dit en Italie et en Sardaigne, c'est que le jazz en Sardaigne est très, très présent dans les pratiques musicales, et très vivant. Et par exemple, par rapport à la Sardaigne continentale, il y a de nombreux festivals de jazz. Donc par rapport à la population de la Sardaigne, si on compare à la population de l'Italie continentale, il y a beaucoup plus de festivals Et apparemment, il y a, par exemple, plus d'argent qui est investi dans le jazz que dans en sardaigne continentale. Donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de citer le festival créé et organisé par Paolo Fresu dans son propre village, à Berchide, qui se déroule au mois d'août, et qui s'appelle Timing Jazz. À part Timing Jazz, il y a aussi un autre festival très important, à Sant'Anarese, dans le sud de la Sardaigne, qui s'appelle Ai Confini tra Jazz e Sardegna, donc qui, là encore, veut faire le lien entre le jazz contemporain et la Sardaigne. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'ils invitent des musiciens de jazz à renommée internationale et des musiciens sardes, et ils jouent ensemble. Et il y a donc des créations qui se font là toutes les années. Après, il y a aussi le festival Musica sulle Bocche, organisé par Enzo Fabatta, dans le nord de la Sardaigne. Donc les Bocches, ce sont les bouches de Bonifacio. Donc c'est un peu un festival entre Corse et Sardaigne, à vocation là encore internationale. Après, on peut aussi citer le festival Le Isole che Parlano, à Palau, organisé et créé par Paolo Angeli et son frère Nanni, dont on écoutera tout à l'heure un morceau, et qui, là aussi, a une vocation internationale. C'est un festival qui est dédié à la musique innovative et à la musique traditionnelle. Voilà. Et puis on peut aussi citer, évidemment, l'European Jazz Expo à Cagliari au mois de novembre, qui est une sorte de gros marché international du jazz, plus commercial que les autres. Et puis le petit festival Ambra Days, qui est un festival dédié aux musiciens jazz sardes, qui, pour pouvoir faire du jazz, sont un peu obligés de s'expatrier sur le continent, et donc ça leur permet, enfin disons que ce festival veut leur offrir une scène pour pouvoir jouer en Sardaigne. On peut revenir sur un morceau qui lie complètement la culture sarde traditionnelle et le jazz contemporain, avec un morceau d'Enzo Favata, qui est un saxophoniste d'Alghero. Ils exécutent Kyrie, qui est un chant encore là, un chant traditionnel liturgique, habituellement chanté par le Concordo de Castelsardo. Et donc là, ils l'exécutent ensemble, Enzo Favata, Simone Zanchini et le Concordo de Castelsardo.
Thank you.
Alors maintenant, on peut écouter un morceau, une création contemporaine de Paolo Angeli. Paolo Angeli est donc un guitariste du nord de la Sardaigne, de Palau, qui a vraiment une très belle carrière internationale. Il a joué il y a quelques jours, une semaine, 10 jours à Banlieue Bleue. Donc c'est un passionné de chant sarde et de guitare sarde. Il joue très bien de la guitare sarde. Il chante aussi les chants que l'on chante en s'accompagnant de la guitare. Il est visiblement d'une famille de musiciens sardes. Il a fait de nombreuses recherches sur la guitare sarde. Il a aussi publié toute une anthologie. Et il part donc de cet instrument pour aller vers le jazz contemporain. Donc sa démarche, c'est un peu à l'opposé de ce que font les gens habituellement. Donc ce qu'on a entendu, c'est des morceaux de musique traditionnelle réinterprétés et réarrangés par des musiciens sardes, c'est-à-dire donc partir de la musique traditionnelle, aller vers le jazz, ou bien accoler, un peu comme le fait Enzo Favata dans ce qu'on vient d'entendre, la musique traditionnelle faite par des musiciens traditionnels et du jazz fait par un jazziste. Donc ce que fait Paolo Angeli, lui, il part de son instrument, la guitare sarde, qu'il modifie complètement. Donc il a créé cette espèce de guitare sarde préparée, et à partir de ça, il fait en utilisant cet instrument qu'il utilise un peu, disons, comme un violoncelle, comme une percussion selon les fois, il va vers une création contemporaine, innovative et improvisée. Voilà, donc là on va écouter Linea di Fuga, extrait du CD homonyme Linea di Fuga de 1995. Thank you. maintenant, on va écouter un morceau d'une création qui a été faite en 2007. Là, c'est encore un peu différent. Donc, habituellement, en Sardaigne, il y a eu, donc, depuis une vingtaine d'années, de nombreuses créations qui mettent ensemble des musiciens sardes et des musiciens de jazz contemporain. La première création qui a été faite en ce sens, c'est Sonos e Memoria, qui réunit Paolo Fresu, Antonore Salis, d'autres musiciens de jazz, à la chanteuse sarde Elena Ledda et le concours de Santulo Sorgio, et à Luigi Lai, qui est le joueur de la Onedas le plus connu internationalement. D'autres créations un peu dans ce sens ont suivi, avec par exemple le Voyage en Sardaigne de Enzo Favatta, qui réunit Enzo Favatta, ses musiciens et des joueurs traditionnels de musique sarde. Donc dans ces créations, c'est un peu en quelque sorte une sorte de superposition des deux musiques. Plutôt les musiciens traditionnels qui chantent et une improvisation jazz à partir de là. Donc là, dans la création Isolanos, qui réunit le ténor Johnny Ferry, donc qui sont des chanteurs de polyphonie sarde à tenores, Omar Sosa et le guitariste sarde contemporain Giordano Battista, ce qui s'est passé, c'est un peu quelque chose à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que Omar Sosa et Giordano Battista ont écrit des compositions qu'ils exécutent tous ensemble. Donc le ténor et Johnny Ferry, qui sont des gens qui ne connaissent que la musique sarde. Disons que ce ne sont pas des musiciens, ce sont des chanteurs de chants à ténores. Là, pour la première fois dans leur vie, ils ont chanté autre chose que du chant à ténores. Par contre, en utilisant ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire chanter à ténores. Donc, en quelque sorte, ils chantent à ténores des compositions écrites par Omar Sosa et par un guitariste contemporain. Donc là, ça a été vraiment quelque chose de nouveau dans ce sens. Donc on va écouter Isolanos, qui est une composition de Omar Sosa. Thank you. parler pas que d'hommes, mais aussi de femmes. On peut dire que les femmes en Sardaigne ont, dans la musique traditionnelle, une grande place. Par exemple, on peut penser à la chanteuse Elena Leda, qui a eu une très belle carrière internationale, ou à Marina Pitam, qui est très connue en France. Dans le jazz aussi, elles prêtent souvent leur voix au jazz. Donc il y a de nombreuses chanteuses dont on peut par exemple écouter un morceau en écoutant le Nafayol de Franca Masu. Donc Franca Masu, c'est une chanteuse d'Alghero qui s'insère dans la musique comme chanteuse jazz. Donc ses premières amours vont vers le jazz pendant plusieurs années. Elle est une chanteuse de jazz. Et puis, en vivant à Alghero, en maturant toute sa passion pour la musique, elle se retourne petit à petit vers l'histoire musicale de sa ville. Donc il faut dire que Alghero est une ville au nord de la Sardaigne qui a une culture très très particulière et dont les auteurs-compositeurs sont très connus. Donc c'est une ville, c'est peut-être la ville en Sardaigne où les auteurs-compositeurs au cours du XXe siècle ont été les plus nombreux en Sardaigne. À un moment donné de son histoire musicale, elle se tourne vers la Sardaigne en interprétant aussi bien les grands auteurs de sa ville que certains auteurs catalans et en composant aussi des morceaux en s'imprégnant de cette musique. Donc là on va écouter Nafayolo. Le Nafayolo, c'est le pêcheur qui pêche les langoustes avec des nasses. Et donc ça raconte toute la journée d'un Nafayolo.
Thank you very much. Nafayolo, dedicated to lobster fishermen, their weirdness, their boundless love of the sea. Moltes gràcies.
Varan lukusu a la maitinada amb les nases per eixir a fora. Pel nas de iolo és vengura l'hora d'alçar la vela i de posar el timó. Les nasses de la palca són mullades amb la cima en fondo a la marina damunt de l'ona. El suro ja s'anirà, s'espera l'hora per poder salvar. Sia de tosso, voga de faccia, on a seiolo, salva la nasa, salva voga, tolo santi dia, se li marina già hi fan compagnia, pascaro. Pascaro, alza la vela e posa il timò. Oh pascaro, alza la vela, posa il timò.
Merci Béatrice Monticelli de nous avoir introduit à ce monde du jazz en Sardaigne. Deuxième temps de cette émission, littérature. Renaud Ego, écrivain, essayiste, critique littéraire, qui a coordonné avec Thierry Favre le prochain numéro de La Pensée de Midi, un numéro d'anniversaire qui s'intitulera Histoire d'un 20 janvier et sera en librairie à partir du 20 mai, va nous lire quelques extraits en exclusivité de ce dossier, des extraits des 11 récits que nous ont livrés des écrivains du pourtour méditerranéen.
Bonjour. Alors pour ce numéro des 10 ans de la Pensée de Midi, la rédaction a sollicité et invité 11 romanciers venus de tout le bassin méditerranéen. Il y a des Espagnols, un Serbe, deux écrivaines libanaises, un romancier marocain, etc., à nous raconter une journée particulière que nous avions choisie avec un joyeux arbitraire et qui s'est trouvée être le 20 janvier 2010. Afin de présenter ce dossier, je vais vous lire des extraits de trois de ces textes. L'un de l'écrivain italien Maurizio Maggiani. Maurizio Maggiani est né en 1951, c'est un journaliste de la Stampa. Il a reçu un prix littéraire prestigieux en Italie qui s'appelle le prix Strega pour un roman publié chez Actes Sud, traduit chez Actes Sud en 2006 et qui s'appelle Le Voyageur Nocturne. Son dernier ouvrage, publié également par Actes Sud en 2009, est un roman qui s'intitule Le Courage du Rouge-Gorge. Dans le récit qu'il nous a confié pour ce numéro anniversaire des 10 ans de La Pensée de Midi, il raconte une nuit de pêche à l'anchois, et je vais vous en lire le début. Le texte s'intitule « La nuit du merle ». Voici venus les jours du merle. Le temps de la tramontane noire est arrivé. Comme toujours, tous les ans. Et l'effet de serre n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. À l'épiphanie, on bout dans la chaleur du sirocco tunisien, mais en janvier, la nuit du changement de lune, il suffit de rester éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, et on le voit arriver. Le merle, brun comme une ombre dans l'ombre, sur les grosses vagues du vent du nord. Et avant même de le constater de tes propres yeux dans la lueur ténue de la lune décroissante, tu sens, à certaines vibrations de l'air dans ton dos, que la mer se fâche en un contre-courant soudain. Tu regardes, et tu la vois se froncer, se détendre, et se froncer encore, en travers, comme si la tramontane la rasait à rebrousse-poil, traîtreusement, et comme si, au passage, elle te rasait toi-même. Sur les arêtes du Bardellone et encore plus loin, vers l'est, au-dessus du rocher de Corniglia, les baves de vapeur froide se coagulent et forment un front. Le lendemain matin, avant qu'il fasse grand jour, le front est devenu mur, et le mur se portera au centre de l'horizon du sud, et là, il dirigera la guerre contre les vents du sud-est, le Grecale, et contre ceux du nord-ouest, venus de France. La guerre durera 7 jours, et il n'y aura pas moins de 3 batailles par jour, et jusqu'à la dernière, celle contre le vent du sud qui apportera le sirocco de Libye. La tramontane noire régnera sur la côte et sur la mer, rien que les stupéfiantes lumières de la tragédie. Mais en attendant, cette nuit-là, à 3 ou 4 brasses sous l'eau, là où dominent encore les courants habituels restés depuis l'automne, dans le lieu du calme et de la constance, se regroupent les derniers bancs d'anchois, trop occupés à s'engraisser dans les eaux tièdes et calmes d'automne pour avoir senti s'annoncer le merle et avoir pris la route du golfe du Lion. Toute la nuit, dans l'éclair d'écume qui s'enflamme d'un trait au passage de l'escadrille des tonines qui, depuis des jours, attendent la nuit propice, on voit les anchois former une boule, luire sous la lune telle des lames et se déployer, filer comme de l'huile sur du verre pour se rassembler à nouveau en une masse trouble de tendres âmes de chair, qui est tout ce qu'ils sont. Si tu veux te préparer quelques anchois au sel, c'est la nuit propice, la dernière. Enfin secoués de leur torpeur par le froid soudain, dès le lendemain, les bancs prendront le chemin de la haute mer. Le deuxième texte que je voudrais vous lire, nous le devons à l'amitié de Mustapha Benfodil. Mustapha Benfodil est un écrivain algérien né en 1968. Il a publié 3 romans aux éditions Barzakh, dont Zarta en l'an 2000, ainsi que Les bavardages du seul en 2003, qui a reçu le prix du meilleur roman. Enfin, Archéologie du champ amoureux en 2007. Dans le texte qu'il nous a donné pour ce numéro des 10 ans de La Pensée de Midi, il raconte sa rencontre avec une journaliste française de la télévision, journaliste pressée dont il se moque avec beaucoup d'humour. Son texte s'intitule « Temps mort ». Il faisait chaud pour un jour de janvier. Un soleil insolent dardait sur la ville une lumière mordorée. Mais malgré ce printemps précoce, j'avais la légia qui me prenait à la gorge. Je grillais une cigarette après l'autre en piaffant d'impatience à attendre ma chance. La bohème, quoi. La bohème, la bohème. Je m'apprêtais à me shooter à la colle japonaise quand une nana s'arrêta sec devant moi. Une caméra se mit en place, un micro me fut tendu et je me retrouvai en état d'arrestation médiatique. « Qu'est-ce que cela signifie de vivre à Alger pour un jeune chômeur comme vous » asséna-t-elle dans un précieux français cathodique dont mon petit frère Nazim lui-même, qui ne commet jamais de faute d'orthographe et à qui je dois d'ailleurs le rewriting de ce texte, n'aurait su déceler la profonde subtilité. Un détail a attiré aussitôt mon attention. La journaliste envoyée spéciale d'une grande chaîne septentrionale n'arrêtait pas de mater sa montre, comme si l'oubli lui courait après ou qu'elle manquait être dévorée par le dieu Chronos. La jolie reporter, moulée dans un jean pressé, parlait plus vite que mes réponses décousues. Agitée et nerveuse, elle scrutait sa montre toutes les 2 minutes en lançant des signes entendus au caméraman qui l'accompagnait. Souvent, elle se mêlait de son travail en lui enjoignant tantôt de m'honorer d'un plan serré, tantôt de zoomer le graffiti déployé derrière mon dos et qui disait « Nique la police » avec un zeb en forme de bras d'honneur brandi dans la face de l'ordre. Le mot « Nick », ne pas confondre avec une marque de vêtements sportifs archi connue, semblait l'avoir particulièrement inspirée. Si bien qu'elle ne put s'empêcher, par association d'idées probablement, de me poser une question pour le moins salée. « Et comment ça se passe avec les filles ici? Je vois que le hijab est omniprésent. Ce n'est pas un handicap pour une sexualité plus épanouie et la construction d'une vraie mixité au sein de l'espace social pour l'établissement de relations cool avec la gente féminine, dût-elle entrer en conflit avec l'islam patriarcal et l'islam ismé radical ? Et blablabla, la question faisait 2 mètres. Nazim, la science, mon frangin, appelle ça la phraséologie, maladie infantile des herbalificateurs et des grands causeurs comme les poivreaux, les imams et ma cousine Farida qui jacasse comme une pipelette. Le troisième texte que je voudrais vous lire est une série de petites histoires que le romancier serbe Vladimir Arsenijevitch nous a confiées et qui s'intitule « Le tour du jour ». Vladimir Arsenijevitch est né en 1965, il est traducteur, éditeur et romancier. En 1994, il avait obtenu le prestigieux prix serbe Nin pour son premier roman qui a été traduit en 1996 aux éditions Plon et qui s'intitule « À fond de cale ». Ce tour du jour est en fait un tour du monde en 12 stations et je vais vous en lire quelques-unes. Première station. Île Åland. GMT moins 12 heures. Minuit vient juste de passer. Une nouvelle journée a officiellement commencé, le mercredi 20 janvier 2010. Sauf que, dans un endroit pareil, ces données n'intéressent absolument personne. Car ici, il n'y a pas âme qui vive. Le silence règne parmi les ruines de la localité qui, autrefois, aurait dû se développer pour devenir le bourg d'Itasca Town, mais qui, à un point donné du temps, lequel s'écoule ici de manière imperceptible, s'est tout simplement effondré sur elle-même. Le silence règne au pied de la balise abandonnée dédiée à Amelia Earhart, que l'aviatrice n'a jamais pu atteindre. Le silence règne autour de l'avion dont l'épave est rongée par la rouille depuis les décennies. Silence et calme règnent sur cette île de corail en plein Pacifique où, excepté les mouettes et les fous bruns, il n'y a pratiquement personne. Décidément, on dirait qu'ici le temps s'est arrêté. Il n'empêche que, toutes les nuits, à la même heure, il se passe quelque chose sur l'île Åland. À un instant précis, d'innombrables colonies de mouettes et de fous bruns prennent brusquement leur envol, leurs cris affolés déchirant le bleu du ciel nocturne. À 0h01 exactement. Troisième station. Tijuana, Mexique. GMT moins 8h. Dehors, une épouvantable tempête fait rage. L'eau déferle de tous les côtés, balaye les rues, arrache les arbres, emporte les voitures et les gens. Pendant ce temps, ce mercredi tragique à 4h du matin, Oscar Antonio Moreno, 23 ans, dealer de cocaïne, voleur et assassin non identifié d'un policier, fils en rupture de ban du célèbre Patricio Moreno, propriétaire d'une chaîne de boulangerie à Tijuana, est allongé dans le plus simple appareil sur l'immense lit de sa chambre à coucher dans son luxueux appartement au troisième étage d'un immeuble, tout ce qu'il y a de solide, en compagnie de Patricia Jimena Hernandez, 15 ans, nouvelle recrue dans l'une des boulangeries paternelles. Et voici ce qu'il lui dit. « On m'appelle El Avo et bueno, tout le monde sait pourquoi. Toi, on t'appelle Garita et tout le monde aussi sait pourquoi. Tes yeux bleus rendraient dingues tous les mecs de toutes les villes le long de la frontière. Andale, imagine un peu, Tijuana, Mexicali, Nogales, Juarez, Matamoros, tous à l'appel. Tu pourrais même jouer dans une série télé et dire que tu bosses dans une boulangerie. » Au même moment, dans le canyon de Los Laureles, les eaux déchaînées emportent Lupita Martinez, 27 ans, et José, son fils unique de 4 ans. La dernière pensée de Lupita va à son fils. Son dernier geste est d'essayer de le soulever au-dessus des eaux bouillonnantes, de le sauver. « José !» crie Lupita. « Tiens bon, petit !» avant que l'eau boueuse ne les submerge tous les deux. « Regarde-moi !» « Regarde-moi encore !» souffle Oscar Antonio Moreno, dit El Avo, tout haletant, à Patricia Jiménez Hernandez, dite Guerita. « À 4h01, tandis que l'eau déferle, et déferle, et déferle. » Station 11, Perth, Australie, GMT plus 8h. Maternité d'État Woodside, Perth, Australie. Gabriela Mendes, 18 ans, fille d'un émigrant du Salvador et vendeuse dans l'épicerie fine familiale, accouche après plusieurs heures passées dans les douleurs de l'enfantement, en poussant un ultime hurlement surhumain à 20 heures exactement. L'enfant qui vient de naître, non sans souffrance, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui maintenant, tout violacé et tout visqueux, gigote et vagit désespérément entre les mains sûres de la sage-femme, est de sexe masculin, un petit garçon. Éreinté, ça oui, mais en pleine santé et tout sauf apathique. Il sera baptisé dans quelques jours. Il s'appellera Enrique Novalis Mendes. La sage-femme approche le bébé du visage maternel, trempé de sueur et de larmes. Elle lui met le nouveau-né dans les bras pour la première fois. Gabriela Mendes prend l'enfant et le serre sur sa poitrine. Elle approche la petite frimousse de son visage. « Kiké !» « Mon Kiki !» lui chuchote-t-elle, débordant d'un amour qui, lui semble-t-il, va faire éclater son cœur. Il est 20h01. À cet instant, naturellement, personne encore ne le sait, surtout pas l'heureuse maman, et l'évidence ne s'imposera qu'après beaucoup d'années. Du petit garçon qui vient de naître et qui va grandir sans père, du petit Kiki, Enrique Novalis Mendes, l'histoire se souviendra très bien.
Troisième partie de cette émission, un entretien inédit avec Edmond Charlot, le libraire et éditeur qui a le premier édité Albert Camus et introduit en Algérie tout un monde littéraire complètement passionnant. Il va nous parler de Jean Sénac, il va nous parler du monde de la littérature en Méditerranée. Je vous laisse à l'écoute de cet entretien donc inédit.
De le publier, puis ça n'a pas marché. Et parce que bon, j'avais des difficultés à ce moment-là, j'ai pas pu le faire. Et puis après les événements d'Algérie sont arrivés, puis tout ça a été foutu.
C'était en quelle année?
Je crois qu'on a commencé à parler de ça aux environs de 50-52 par là. Quand je suis retourné en Algérie,
oui.
Bon, on avait arrêté la maison et à ce moment-là, on s'est mis à parler de refaire des choses. Ben, je voulais refaire la revue Rivage. Vous savez, la revue Rivage avait deux numéros. C'est une chose qu'on avait montée avec Camus, et puis il y avait eu des professeurs d'université comme Jacques Orgon, Jean Hittier, etc., plus un certain nombre de panneaux. Je vous avais dit Claude de Fréminville, qui était le Claude Thérien d'Europe numéro 1, plus d'autres personnes, n'est-ce pas. Tous ces gens-là avait décidé de faire cette revue. On a eu deux numéros. Les numéros étaient sympathiques, et il y en avait un troisième qui était un hommage à Garcia Lorca, et ça se passait à une période où vraiment c'était sous Vichy, et Vichy a pris ça très mal. On flirtait beaucoup avec Franco à l'époque à Vichy, et on nous a interdit purement et simplement. Et alors, le plus grave de tout, c'est qu'on a saisi les moras, on a saisi les plombs, on a tout saisi, y compris les textes. Ce qui fait qu'on a tout perdu de ce numéro. Bon, puis ça s'est suivi après par les plaisanteries, on m'a collé en prison après. Tout ça, oui. C'était les suites de Vichy. Enfin, c'était Vichy d'ailleurs, c'était pas les suites de Vichy. On m'a mis en visage avec une merveilleuse, et, je ne sais pas si je vous avais dit ça, présumé gaulliste sympathisant communiste. C'était magnifique, à la lettre de cachet. Vous voilà. Et tout ça, c'était. Et donc, je suis retourné en Algérie en 52, après l'interrègne, enfin, après Paris. Et puis, je suis retombé sur tous les gens, les jeunes écrivains que j'ai connus, dont Jean Sénac, qui, entre-temps, avait fait une revue, enfin deux revues. Une qui s'est appelée Soleil, qui a eu 5 ou 6 numéros, et une qui s'est appelée Terrasse, et qui a eu un seul numéro. Terrasse, numéro dans lequel il y avait d'ailleurs, je crois bien, Ponge, Char, Camus, etc. Enfin, un numéro absolument extraordinaire. Il y a eu un seul numéro.
Et c'est là que vous l'avez rencontré la première fois, quand ?
Oh ben, je l'ai connu tout jeune, c'était un de mes clients de librairie, des jeunes clients de librairie. Je suis vraiment incapable de vous dire à quel moment il est venu.
Il avait votre âge à peu près ?
Non, il était plus jeune, il avait, à mon avis, une quinzaine d'années de moins. Écoutez, je n'ai pas les dates, je suis brouillé avec les dates, mais on peut peut-être le voir là-dessus. Il y a certainement, à mon avis, il avait une quinzaine d'années de moins. 1926, vous voyez, donc il avait 11 ans de moins que moi. Il était de 26.
Donc c'était un poète.
Il était poète, il a pratiquement guère écrit que de la poésie, puis un peu de critique, des choses comme ça, mais enfin, c'est essentiellement un poète.
Et comment dire
Et vous verrez, c'est assez repliqué. Oui, mais vous verrez, c'est pas la peine de vous en parler avant, il vaut mieux que vous le lisiez. Les textes du petit volume, qui sont pas seulement les textes poétiques, il y a des poésies, il y a des poèmes, mais il y a tout un morceau de journal, et c'est le journal a été écrit quelques années avant sa mort, avant l'assassinat, et c'est assez extraordinaire, grande qualité. Son premier volume a été publié par Camus dans la collection Espoir, chez Gallimard, avec une préface de Char. Et je crois que c'est celui-ci que Nielsen doit reprendre à Actes Sud. Je crois bien.
Oui, c'est celui-ci, j'ai eu la confirmation tout à l'heure.
Les confirmations, oui.
Donc ils vont rééditer tous ces nacs, tout ce qu'il y a.
Oui, alors ça je sais, on avait parlé, enfin, et de Maisoncel, qui a été un peu la chevrière de ça, Jean de Maisoncel m'avait dit oui, bon, si on m'avait demandé de le faire, moi je suis incapable de faire ça maintenant, c'est trop lourd, et puis on n'a pas les moyens de diffusion ici qui permettraient de faire de l'édition. Donc ce qu'on fait comme édition, les quelques trucs qu'on a fait, c'est vraiment très confidentiel, et ça s'adresse à des amis, bon, même qui ont participé à ça. Le tout pour nous, c'est pas de faire des bénéfices, mais de recouvrir les frais pour pouvoir en faire un de plus, c'est tout. Ça s'arrête là.
Et comment vous a apparu Jean Sénac, à cette époque-là, quand il est rentré la première fois dans votre librairie ? Comment vous l'avez vu ?
Curieux, assez volubile, pas très grand, brun, fin, l'œil malin.
Et il s'est intégré au groupe de la librairie ?
Ben non, parce qu'à l'époque c'était déjà fini, n'est-ce pas ?
C'était
l'après-guerre, vraiment.
C'était l'après-guerre,
L'après-guerre. Pendant la guerre, je ne l'ai pas connu, il était à Oran, je crois d'ailleurs. Je crois qu'il est né à Oran et il n'était pas... Il faisait 10 ans à l'époque, c'était énorme, une différence d'âge de 10 ans, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en 50, il avait 20 et quelques années.
Vous voyez ? Vous en aviez 31 ?
J'en avais un peu plus que ça. Attendez, moi j'avais. Je suis né en 15, donc j'avais 15 et 25, j'avais 40. J'avais 35 ans.
35 ans.
39 ans, enfin, je ne sais pas combien. Je ne sais pas exactement à quelle date je l'ai connu, mais enfin.
Il a publié ses poèmes chez vous, le premier ?
Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai rien publié
de lui
à ce moment-là, si ce n'est peut-être en revue, je ne sais plus très bien.
Oui.
Mais il a publié ça dans les revues, la revue qu'il faisait, cette revue Soleil. Et j'en ai malheureusement pas à vous montrer. J'ai perdu tous mes exemplaires de Soleil. C'était une petite revue carrée qui était assez bien faite, jolie. Yes. Enfin, en fait, c'était lui qui était la chevrière. C'est lui qui faisait tout. Il allait chercher les textes, il se battait pour les avoir, et il discutait avec les gens. Il était très actif. Et à l'époque, moi, je ne faisais plus rien, j'étais complètement sorti du circuit, quoi. J'ai recommencé, j'avais eu l'idée de refaire donc Rivage, comme je vous disais tout à l'heure, et j'avais demandé des textes un peu à tout le monde, et c'est là qu'on m'avait dit, bon ben, je vais vous en donner, et puis, je vais participer à la chose. Et en fait, on n'a pas fait ça, parce que j'ai senti qu'il y avait une espèce d'obstruction, pas obstruction, mais d'une gêne des gens qui avaient participé avant, c'était une chose révolue, il ne fallait pas recommencer. Puis entre-temps, Camus avait disparu, en fait, tout ça était... c'était plus possible.
Et comment expliquez-vous en fin de compte que Sénac soit aujourd'hui pas oublié, puisqu'on l'aurait dit, mais...
Non, il n'est pas oublié, au contraire, ça paraît maintenant de plus en plus.
Oui.
Il a eu un livre publié chez Cybervie, j'en ai plus l'exemplaire ici, j'en avais beaucoup, puis on a tout vendu. Et je me suis rendu compte en regardant ce matin qu'on n'avait plus l'exemplaire, et Cybervie a disparu. Cybervie, c'est Rodez, vous savez. Ils ont disparu, pas du tout où est passé les quelques livres qu'ils avaient encore. Le premier volume a été publié par Gallimard. C'est un des premiers volumes de la collection Espoir, donc Camus s'était pas trompé, il s'était bien rendu compte que de la qualité.
Et après, au fur et à mesure, il a publié...
Il a publié relativement peu de choses. Il a publié des petits volumes, un volume illustré par Mourad Bourboul, je crois bien. Mais tout ça était assez confidentiel. En fait, le premier volume qui a eu un peu de tirage, ça a été le volume de... les poèmes publiés par Gallimard, et puis c'est à peu près tout. Mais il y a toujours eu le retour de Sénac à partir de sa mort d'ailleurs, à ce moment-là vraiment, un mouvement, les gens commençaient à en parler. Je vous disais, Péron Saligo a fait un livre très très véhément dans lequel il prend à partie un des ministres disant qu'il est responsable de la mort. Enfin, c'est vraiment... ça a pris beaucoup, beaucoup, la rumeur s'est enflée beaucoup, jusqu'au colloque qui a été déterminant. Il y avait là un ensemble d'Algériens, tous ceux qui ont accepté de participer, parce que bon, bah, les gens sont en place, le fameux ministre en question est en place. Donc, bon, mais il est bien certain que l'important, c'est de dire que... qu'il s'est toujours considéré comme algérien, il avait revendiqué la nationalité algérienne, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il l'a jamais obtenu, d'ailleurs.
Là, sur la couverture, on parle de la nouvelle poésie algérienne à l'époque, comment dire, de la librairie, ou en dehors de toute considération d'école.
Non, ça n'existait pas.
Ça n'existait pas. Il n'y avait rien, en fait.
Il n'y avait rien. La plupart des gens qui se sont révélés après, se sont révélés après, à partir de cette période.
À partir de cette période.
D'ailleurs, Sénac a été pour beaucoup un détonateur.
Qu'est-ce qu'il a imposé, un univers poétique, une langue ?
Non.
Non ?
Non. Non, je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai pas l'impression. Mmh. Mais, si vous voulez, il y a eu, au même moment, un de ses amis, d'ailleurs, qui était un de mes amis, j'étais en classe avec lui, sur le plan de la peinture, et Sauveur Galliero, qui a été le même détonateur. Et qui, lui, est mort... Sauveur Galliero est mort au moment de l'émancipation de l'Algérie. Je crois qu'il est mort... 62 ou quelque chose comme ça, ou enfin 62, 63 à Paris, il est mort d'une leucémie. Et ça a été le même, il a eu le même rôle vis-à-vis de la peinture que Sénac a eu vis-à-vis de la poésie.
Comment on pourrait le redéfinir, ce rôle ?
Un espèce de côté meneur, c'est d'ailleurs scandaleux de parler de meneur pour des gens comme Sénac et comme Galliero, qui étaient l'opposé de meneur. Mais ils attiraient à eux les gens, et je crois que Galliero, j'ai toujours connu avec des quantités de jeunes peintres qui travaillaient avec lui, et ils étaient tous les deux éminemment gentils, donc je pense que c'était suffisant pour justifier, si vous voulez, ça.
Avec une sorte d'aura et d'enthousiasme qui venait d'eux.
Oui, peut-être, je ne me rends pas bien compte, parce qu'évidemment j'étais pas dans l'orbite, moi je les connaissais bien parce que c'était des amis de longue date. Surtout Sauveur Galliero, dont il est parlé beaucoup. Vous verrez qu'il y a une bonne partie des poèmes dans lesquels Galliero ressort. Ce sont des gens avec qui on a pratiquement... Enfin, ce Galliero, j'ai pratiquement toujours non pas vécu avec lui, mais je le voyais, si ce n'est pas une fois par semaine, c'est trois fois, et quelquefois trois fois par jour. Vous voyez, Galliero est passé à la librairie, on restait un mois sans le lire, et puis après on le voyait tous les jours, il s'y installait, il amenait ses amis, donc...
Oui, c'est compliqué de définir un petit peu, comment dire, l'esthétique de Sénac. Vous demandez à définir à l'intérieur de... par rapport à ce qui a précédé.
Il a été d'abord, qui se voulait disciple de Char, incontestablement, oui. Au départ. Mm-hmm. Bon, je ne suis pas tellement sûr que Char ait beaucoup aimé ça. Je crois que Char l'a considéré comme un gars. Il y a eu d'ailleurs des échanges de correspondance. Je pense que c'est par Camus que Char l'a rencontré. Et ça a dû se faire, il y a eu un colloque organisé au moment de Vichy en Algérie qui s'appelait un colloque de Sidi Madani, ça se passait dans les montagnes des gorges de la Chifa.
Où Ponge s'est rendu.
Alors il y avait Ponge, je crois qu'il y a eu Char, oui. Et Camus a dû y venir. Moi je n'étais pas là à ce moment-là. Et je pense que tous ces gens-là se sont rencontrés, se sont connus et se sont estimés à ce moment-là. Et moi il s'est trouvé que je n'ai pas pu assister à ce moment-là. Je ne sais plus pourquoi, je crois que j'étais en France. Enfin, il y a eu une impossibilité matérielle. Oui, il y a eu en 47, je ne sais plus la date.
C'est l'année du Parti pris des choses, de la
oui,
peste.
Oui, c'est ça. Et enfin, j'étais à Paris, je n'ai pas pu venir, ce n'était pas possible.
Et dans ce colloque, en fin de compte, ce sont...
C'était un colloque sur la poésie, oui. Et je pense que, comme je n'ai pas assisté, je ne peux pas vous dire de quoi on y a parlé exactement, mais je pense qu'on a parlé beaucoup de poésie. Et on a parlé surtout de la Méditerranée, enfin c'était ça. Mm-hmm. Parce que, en définitive, Sénac se voulait poète méditerranéen, hein, bien sûr. Il a été, à l'émancipation de l'Algérie, il a été plus ou moins président des écrivains algériens, des jeunes écrivains algériens. Ils ont essayé de faire un mouvement. Et c'était le moment de Ben Bella, les a un petit peu aidés. Et puis je crois que quand Ben Bella a disparu du circuit, Sénac a été un peu neutralisé. Mais il y a eu une période où il a eu vraiment une position presque officielle, sans être lui-même officiel, il se voulait. C'était le contraire d'un écrivain officiel, mais il s'est trouvé par la force des choses un petit peu en flèche.
Et pourquoi en fait pour assassiner ?
Je ne sais pas, il était homosexuel, donc on a dit c'est une affaire de mœurs. Mm-hmm. Et Piron Saligo dit non, c'est pas une affaire de mœurs, c'est un assassinat politique parce qu'il gênait les gens et il savait trop de choses.
Il gênait qui, par exemple dans...
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mm-hmm. Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. C'est très difficile de dire, parce que moi, je n'étais pas du tout. Je suis retourné en Algérie après la période où Sénac a été en pointe, en flèche. J'y suis retourné en fin 1946, et Sénac a finissé, à ce moment-là, son rôle de président de l'Union des écrivains algériens. Bouti, qui n'était pas un homme politique, qui était un merveilleux illustrateur, a connu Sénac, et je pense qu'il aurait volontiers illustré Sénac.
Et là, vous avez publié le journal d'Alger.
J'ai publié ça seulement, lui, donc le journal d'Alger. Et je vous dis, ça s'est fait, non pas parce que je vais particulièrement... Oui, j'avais envie de le publier, mais en fait, c'était une espèce de dette que je réglais, je lui avais promis ça et je voulais le faire. Et quand j'ai eu le manuscrit en main, ça s'est passé par l'entremise de Marc Fègre, qui dirige les archives littéraires de Marseille. Les archives littéraires de Marseille ont monté ces archives d'une manière intelligente. Ils demandent aux écrivains de la Méditerranée de bien vouloir, dès maintenant, léguer leurs archives à Marseille. Et je sais que, bon, il y a les archives de Gabriel Odizio, de Broquier, de... Je crois Jules Roy, tout un tas d'écrivains ont légué leurs archives à Marseille. Et c'est comme ça qu'il a eu donc Louis-Jean Sénac, le maison seul qui s'occupait des intérêts de Sénac après sa mort et qui était plus ou moins exécuteur testamentaire, avec le fils héritier de Sénac, s'est occupé de la légation de léguer les archives à Marseille également. C'est comme ça qu'il y a eu ce colloque. Comme il y a eu l'an dernier, un colloque Jérôme Rouche, l'an dernier, en octobre, il y a eu un colloque Jean Labrouche, et comme il y avait eu 3 ou 4 ans avant, un colloque Gabriel Odizio, si vous voulez.
Et il y a eu un colloque aussi Odizio.
Il y a eu, oui, un colloque Odizio, auquel je n'ai pas assisté parce que je n'étais pas là, j'étais à ce moment-là au Maroc. Je ne l'ai pas su. Et en même temps qu'un colloque, Louis Broc. Odizio était comme ça. Il y avait un côté fraternel merveilleux.
Sénac aussi, à vous entendre parler.
Sénac aussi, c'était pas le même personnage. Odizio avait un côté un peu officiel. Il avait été le directeur, le fils du directeur du théâtre officiel, enfin d'Alger, l'Institut national d'Alger, au début du siècle, enfin au début, aux environs des années 20-25. Il a écrit d'ailleurs un très beau livre de souvenirs sur cette période-là.
En vous écoutant, en découvrant tout ça, moi j'ai l'impression qu'en fin de compte, au niveau de l'histoire de la littérature, on pense pas au Lagarde et Bouchard quand même, mais... Après la guerre, c'est généralement le nouveau roman, mais en fin de compte, il y a tout ce continent-là qui a été un petit peu laissé
de côté.
À mon
avis, le nouveau roman, c'est absolument rien.
Oui,
c'est ça. Ça ne laisse aucune trace. Quelques années après, ça laisse quelques noms.
Ouais,
il y a quelques très beaux volumes, mais qui se seraient attachés à n'importe quoi, pas spécialement à l'ancien roman. Pas plus d'ailleurs que l'existentialisme, dont on a fait toute une histoire, peut rattacher des gens. Mais en fait, d'ailleurs, le rigolo, c'est que Sartre et Camus se sont élevés contre ce rattachement. En disant, foutez-nous la paix, on est écrivain, on n'est pas spécifiquement existentialiste.
Bien sûr. Et en fin de compte, il y a tout cet univers de la création algéroise et méditerranéenne qui a été un petit peu laissé de côté quand même. À part aujourd'hui, on s'est redécouvert, mais il a fallu quand même attendre.
Oui, un grand tort, d'ailleurs.
30 ans.
Moi, pendant des années, j'ai caressé le projet de faire une grande. Bon, d'abord, une maison d'édition méditerranéenne, ça c'était loupé. Mais ce que je voulais monter, c'était une grande collection méditerranéenne, c'est-à-dire republier tous les classiques de la Méditerranée. Depuis Homère, vous comprenez, il y avait très loin. Il y avait Homère, Plot, Plotin, je ne sais quoi, enfin, tout ce qui se rattachait à la Méditerranée.
Et dans les modernes.
En prenant les chefs-d'œuvre. On prend les modernes, Kazantzaki avec Alexis Zorba, Moravia avec. Ça ne manque pas. Alors vraiment, on a que l'embarras du choix. Les Grecs, les Espagnols, les Italiens, mais aussi les Libanais. Vous comprenez, les Libanais avec des gens comme Chehadé, ou bien. Qui sont des gens merveilleux. Chehadé, qui est un très très grand poète aussi. Et qui, par flemme, parce qu'il se prétend merveilleusement flemmard. Et effectivement, c'est en même temps un grand poète et il est lymphatique. Il laisse aller un peu les choses. Et puis il n'a peut-être pas eu aussi. Nous avons publié une pièce de lui. Et malheureusement, à l'époque, on a été obligé de ralentir l'activité. Et j'aurais bien aimé publier d'autre chose de Chehadé. Mais vous avez également Kosri, qui est un grand écrivain et qui est égyptien. Enfin, qui est égyptien, il est plus, il va une fois de temps en temps voir sa famille en Égypte, mais il est beaucoup plus parisien que... Moi, j'ai publié les deux ou trois premiers, Mendiant et Orgueilleux, La Maison de la Mort Certaine, et puis Les Hommes Oubliés de Dieu. Ce sont les trois premiers volumes, et qui sont remarquables, c'est un très grand écrivain. Alors, ce sont des gens comme ça. Bon, puis il y avait Eugenio Montale, puis il y avait Garcia Lorca, bien sûr, et puis tous ces gens-là. Et pour les Italiens, n'en parlons pas, alors là, ça manque pas. Commencer par Emilio Cecchi en poésie, pour finir par Vittorini, et enfin je serais ravi si un jour quelqu'un reprenait cette idée d'une grande collection méditerranéenne.
Cette émission du Rendez-vous de Midi touche à sa fin. Vous avez pu entendre Béatrice Monticelli nous introduire dans le monde du jazz en Sardaigne, Renaud Ego, l'écrivain, critique littéraire et essayiste, nous introduire le prochain numéro de La Pensée de Midi, un numéro d'anniversaire pour ses 10 ans, grâce à la lecture de plusieurs textes et récits qui seront publiés dans ce numéro, et enfin un entretien inédit avec Edmond Charlot, enregistré en 1986. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain.